الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسنبدأ بترجمة الدرس التاسع لعقيدة الإمامين الرازيين أبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي برواية ابن أبي حاتم وسنترجم بعد قراءة النص كلام شيخ محمد بن هادي كلام شيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي حفظه الله وهذا الدرس هو من دروس الشيخ يعني التي أقيمت في الدورة دورة الإمام عبد الله القرعاوي في جنوب المملكة في مدينة صامطة وهذه الدورة تقام في كل سنة والحمد لله فنبدأ الآن بقراءة النص في المكان الذي وصلنا فيه وهو كلام الإمامان ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم ونكل صرائرهم إلى الله عز وجل فالآن بالترجمة إلى اللغة الفرنسية donc maintenant on va commencer à expliquer le cours numéro 9 dans l'explication de la aqida des deux imams Ar-Razi Abu Hatim et Abu Zur'a avec la narration de Ibn Abi Hatim, le fils de l'imam Abu Hatim. Donc, on est arrivé dans la lecture du texte à la parole des deux imams lorsqu'ils disent « Et on ne déclare aucun des gens de la Qibla mécréant pour des péchés qu'ils ont commis et on remet leur intérieur à Allah. » C'est-à-dire, on renvoie le contenu de ce qu'ils ont en eux-mêmes, dans leur cœur, à Allah. Et on va maintenant traduire l'explication du Cheikh Zayd qui suit dans le cours 9. Et bien entendu, ça fait partie des cours qui ont été donnés durant le séminaire de l'imam Al-Qara'awi qui a lieu dans le sud de l'Arabie Saoudite, dans la ville de Samita. Et c'est un séminaire qui a lieu chaque année. Donc on commence tout de suite avec l'explication du Cheikh Zayd avec la traduction en français. Donc il commence par envoyer la paix et le salut sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sur ses fidèles et sur ses compagnons. Ensuite il dit ça c'est une explication de la croyance de Ahl Sunnati wal Jama'a et de leur méthodologie. C'est-à-dire qu'ils ne déclarent pas mécréants des gens pour des péchés qu'ils ont commis, excepté il y en a ce qui a été confirmé par le Coran et par la Sunna et le consensus que cette chose est kufr, c'est-à-dire les actions, les paroles apparentes et cachées. Donc ce qui fait partie des péchés et qui a été déclaré mécréant par le témoignage du Coran et de la Sunna, les gens de la Sunna wal Jama'a déclarent quelqu'un kuffar pour ces choses-là. Mais ce qui n'est pas kuffar, selon le verdict du Coran et de la Sunna, alors cela fait partie des péchés dont la personne qui les commet est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut les châtier, il va les châtier pour le crime qu'ils ont commis, et s'il veut, il va les épargner et il va leur pardonner, il va les faire entrer dans son paradis sans que le feu les touche. Allah Ta'ala dit, Allah ne pardonne pas qu'on associe quoi que ce soit avec lui, qu'on fasse le shirk avec lui, mais il pardonne à qui il veut, tout autre péché que le shirk. Il pardonne à qui il veut tout autre péché qui est moindre que le shirk. Donc tout péché qui est moindre que le grand shirk, le shirk majeur, et qui est moindre que le kufr majeur, et qui est moindre que l'hypocrisie majeure, l'hypocrisie dans la croyance, ou moindre que l'ilhad, c'est-à-dire la négation des noms et des attributs, et l'athéisme qui fait sortir de la religion. Donc tout ce qui est moindre que ça parmi les péchés, on ne juge pas à leur sujet qu'ils sont mécréants. Et on ne va pas juger qu'ils font partie des mécréants et qu'ils seront éternellement en enfer. Et on dit qu'ils sont sous la volonté d'Allah, ils sont sous la volonté divine. Donc celui qui fait un péché qui est moindre que ce qu'on vient de mentionner, eh bien on ne va pas dire à leur sujet que ces gens-là sont des mécréants parmi ceux qui vont être éternellement en enfer ou qui vont demeurer éternellement en enfer. Mais on dit d'eux qu'ils seront uniquement sous la volonté divine. Donc ils en commettant ce péché, qui est moindre que le kufr majeur, donc ils se sont mis sous la menace du châtiment de la vie d'ici-bas et le châtiment de l'au-delà. Donc ça, c'est ce que le cheikh avait à dire à propos de cette partie. Donc ensuite, l'imam, les deux imams mentionnent وَنُقِيمُ فَرْضَ الْجِهَادِ وَالْحَجِّ مَعَ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِي كُلِّ دَهْرٍ وَزَمَانٍ وَلَا نَرَى الْخُرُوجَ عَلَى الْأَئِمَّةِ وَلَا الْقِتَالَ فِي الْفِتْنَةِ وَنَسْمَعُ وَنُطِيعُ لِمَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَنَا وَلَا نَنْزِعُ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ. Donc, يعني ça signifie que nous établissons l'obligation du djihad et du hajj avec les dirigeants des musulmans à toute époque et à tout endroit, à toute époque et en tout temps, et nous ne voyons pas la légitimité de se révolter, de se rebeller contre les dirigeants, ni de combattre dans les périodes de tribulation durant la fitna, et nous écoutons et nous obéissons à celui à qui Allah a donné le commandement sur nous, et nous ne retirons pas notre main de l'obéissance. Donc le cheikh Zayd, maintenant, il commence à expliquer cette partie dans la parole des deux imams. Et il dit, c'est ainsi l'explication et la clarification de la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'ah et de leur méthodologie en ce qui est relié à l'obéissance d'Allah, l'obéissance du messager sallallahu alayhi wa sallam, et l'obéissance des dirigeants parmi les musulmans. Donc l'obéissance d'Allah, elle se manifeste dans l'application de ses ordres et dans le fait de s'écarter de ce qu'il a interdit, et de déclarer halal ce qui est halal, et de déclarer haram ce qui est haram, et de croire en ce que Allah a révélé sur son messager sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran et dans la Sunna. Et l'obéissance du messager sallallahu alayhi wa sallam se manifeste dans le fait de le suivre, dans ses paroles et dans ses actions, et ses actions qui sont intérieures et extérieures, et dans son amour qui est basé sur la révélation, sur la législation, et à propos de laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit si yani qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum, c'est-à-dire si c'est que vous aimez réellement Allah, alors suivez-moi et Allah vous aimera et il vous pardonnera vos péchés. Wallahu ghafurur rahim, c'est-à-dire et Allah est pardonneur et miséricordieux. Et l'obéissance des dirigeants fait partie des obligations qui sont certaines pour les musulmans et pour les musulmanes, tant que il est musulman, même s'il est injuste, même s'il est pécheur. Yani, tant que c'est un péché qui, par lequel il ne devient pas mécréant. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a mis au pouvoir sur le groupe des croyants, des musulmans. Et il n'est pas une condition qu'il soit dirigeant sur tous les pays du monde ou sur tout le monde au complet, mais uniquement ce sur quoi il a le pouvoir, et le territoire sur lequel il a le pouvoir et qui est sous sa direction et sa juridiction. Yani. Donc, il est obligatoire, yani, dans ce cas-là, pour ceux qui sont sous son autorité, de lui obéir. Yani, les gens de cette région-là, il est obligatoire pour eux de lui obéir et de lutter et de combattre avec lui lorsqu'il ordonne le djihad qui est yani, en accord avec la charia. Peu importe que ce soit le djihad contre les kuffars ou le djihad contre les transgresseurs ou les khawarij, yani, qui sortent contre les dirigeants, hein, et il en résulte, le résulte de leur sortie ou de leur rébellion, le désordre et le chaos, hein, le fait qu'il y a des gens qui meurent et que les biens sont volés et que l'honneur est atteinte. Il y en a parmi les exemples de ce qui est bien connu à ce sujet. Donc les Khawarij, ils se limitent pas uniquement à ceux qui ont pris les armes contre Ali radiallahu anhu, mais c'est des gens qui sortent d'une période à l'autre, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit à leur sujet, chaque fois qu'une de leurs cornes sort, elle est coupée, jusqu'à ce qu'il ait calculé 20 cornes parmi les Khawarij. Donc, avec leur mauvaise croyance, ils ont rassemblé à ça, et à leur mauvaise croyance, ils ont réuni et rassemblé avec les mauvaises actions également. Une mauvaise conduite. Et ils sont donc vraiment, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit à leur sujet, les chiens de l'enfer. À cause de leur saleté et de leur corruption sur la terre et désordre sur la terre. De même qu'on va combattre, donc on combat et on lutte dans le djihad derrière le dirigeant, et c'est lui également qui établit le hajj ou son représentant, hein. Et ça c'est à cause de la grandeur du hajj et de son importance. Mais c'est uniquement à cause du grand mérite du hajj et de son degré très élevé dans la charia de l'islam. Et comment cela pourrait-il être autrement lorsqu'on sait que le hajj est un des grands piliers parmi les 5 piliers de l'islam et une des obligations parmi les obligations de l'islam, le hajj et la umrah. Donc il faut absolument qu'il y ait un amir dans le hajj pour que les gens qui font le hajj soient en sécurité dans leur personne et dans leur bien et dans leur honneur. Et sans dirigeant et sans chef pour le hajj, les gens qui font le hajj ne sont pas en sécurité dans leur personne ni dans leur bien. Et cette chose est connue dans l'histoire. Et en particulier, avant l'état de l'Arabie Saoudite, les gens étaient dans l'ignorance et dans la transgression. La plupart d'entre les gens, il y avait beaucoup d'attaques qui étaient faites et de transgressions qui étaient faites contre les gens qui venaient faire le hajj sans que personne ne donne à ça aucune importance. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a honoré la Ummah avec cet état, avec l'Arabie Saoudite. Depuis sa création, et en particulier lorsque l'imam Abdul Aziz ibn Abdurrahman al-Faisal al-Saoud a pris le pouvoir, était au pouvoir, et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de cette chose. Et Yani à chaque année, on voit augmenter les gens qui viennent faire le hajj. Et la sécurité, le fait de rendre le hajj de plus en plus sécuritaire. Surtout les plans et surtout les points de vue. Et ça, c'est une grâce d'Allah. Puis ensuite, avec les efforts de ce pays de l'islam, le pays de l'Arabie Saoudite, yani que Allah subhanahu wa ta'ala les bénisse dans la science et dans la pratique, et dans l'état, dans la situation, et dans l'argent et la richesse également. Donc c'est la croyance d'Ahlus Sunnah wal Jama'ah, et donc ils ne sont pas comme les Khawarij, mais ils sont uniquement les gens qui ont yani la aqida et la méthodologie, le manhaj du juste milieu. Donc yani elle est basée sur cette méthodologie est basée sur la bay'a, le serment d'allégeance pour l'imam, le dirigeant, et les gens de la sunna lui obéissent dans le bien et ils luttent également avec lui et ils font le jihad avec lui et ils écoutent ses ordres. Ces ordres qui ne sont pas des péchés ou des désobéissances. Et ainsi que dans le hajj. Ils écoutent les ordres dans lesquels il y a de la réforme et du bien, et également dans lesquels il y a une préservation, une protection pour la personne qui est venue faire le hajj, jusqu'à ce qu'il retourne dans son pays. Oui. Donc là maintenant on va lire la suite des paroles des deux imams. Les deux imams Ar-Raziyan, ils continuent en disant: wa nattabi'u as-sunnah wal jama'ah wa najtanibu ash-shudhudh wal furqa wal khilaf. Nattabi'u as-sunnah wal jama'ah wa najtanibu ash-shudhudh wal furqa wal khilaf. Ce qui signifie, et nous suivons la sunna et la jama'a, c'est-à-dire on suit la sunna. La jama'a, c'est le groupe. Et nous écartons des choses, c'est-à-dire les choses qui sont singulières, les opinions qui sont singulières et peu connues, la division et les divergences. On va donc maintenant traduire les paroles de Cheikh Zayd al-Madkhali qui explique ces points qu'on vient de traduire. Donc Cheikh Zayd il dit oui, et ça c'est la aqida et le manhaj que le musulman et la musulmane se réunissent à Ahlus Sunnah wal Jama'a, c'est-à-dire ceux qui appliquent le Coran et la Sunna selon la compréhension des salaf al-salih dans tous les différents aspects de la science et de l'action et de l'application. Et ils sont d'accord entre eux sur ça. Et le résultat de ça, c'est qu'ils s'aiment entre eux. L'amour sincère et la fraternité islamique, parce qu'ils se sont basés et ils ont suivi l'exemple du Coran et de la Sunna, ils se sont réunis sur ça. Et avec le fait de se rassembler autour du Coran et de la Sunna et de l'amour qui existe entre eux en Allah et pour Allah, ils s'écartent de la division et des causes de divergence et les causes de division comme parmi les paroles et les actions intérieures et extérieures, et à ce moment-là ils deviennent préservés en eux-mêmes, ils se préservent en eux-mêmes et ils font plaisir à leur Seigneur. Ils se réunissent sur qu'est-ce que Allah aime et ce qu'il agrée, et ils s'écartent et abandonnent ce que Allah déteste et ce qu'il refuse parmi les innovations et les égarements qui causent la division entre les musulmans. Donc ça c'est ce que le cheikh avait à dire à ce sujet. Et l'élève du cheikh maintenant il lit la suite où les deux imams Abu Hatim et Abu Zur'a الرازي مصيان وأن الجهاد ماض منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء والحج كذلك ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين. Donc le cheikh l'explique maintenant et il dit que le djihad continue, hein, la lutte et le djihad continue depuis la période ou le temps où Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la venue de l'établissement de l'heure du jugement dernier avec les dirigeants parmi les musulmans, les dirigeants des musulmans, et il n'y a rien qui va venir l'annuler, de même que le hajj et de verser la sadaqat des bétails aux dirigeants des musulmans. Donc le cheikh Zayd il explique et il dit donc que ceci est une énumération des différents éléments de la croyance d'Ahl Sunnah wal Jama'a dans lesquels il y a yani la sécurité et le salut des yani une protection contre les châtiments dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et il y a également l'obtention de la récompense d'Allah et de son agrément. Donc le djihad, il continue. C'est-à-dire le djihad contre les ennemis d'Allah, parmi les kuffars et parmi les hypocrites, les munafiqoun. Et tous ceux au sujet desquels l'ordre de combattre a été rapporté parmi les gens de la corruption sur la terre. Donc les koufars, on les combat avec les preuves et avec la force lorsque les musulmans ont la capacité de le faire. Donc il faut qu'il y ait pour le djihad un dirigeant musulman qui organise le djihad et qui donne aux combattants les bannières pour le djihad. Et le but du djihad et son objectif est d'élever la parole d'Allah et de propager les enseignements de l'islam et la sécurité dans les pays. Donc c'est quelque chose qui reste, qui demeure et que rien ne peut annuler. Mais c'est bien entendu lorsque les conditions du djihad sont présentes et que ces empêchements sont enlevés. Et le combat ou la lutte contre les gens de l'hypocrisie, il y en a les munafiqoun qui sont plus mauvais que les koufars déclarés, le djihad contre eux se fait avec la preuve, en établissant la preuve contre eux avec les preuves du Coran et de la Sunna, et de les appeler de façon claire et explicite avec les textes du Coran et de la Sunna pour qu'ils deviennent sincères et qu'ils purifient leur intention à Allah Azza wa Jal dans leurs paroles et dans leurs actions. Et ça, c'est les savants qui détiennent cet aspect du djihad, c'est-à-dire ceux qui sont aptes à réfuter tous les différents groupes de personnes. Et donc, eux, ils font le djihad contre les kuffars par la da'wah, c'est-à-dire par le fait de les inviter à l'islam. Et en expliquant les beaux enseignements de l'islam, et en mettant en garde contre le shirk, par miséricorde pour eux. Et s'ils refusent, ils les combattent avec les armes lorsqu'il y a la capacité de le faire. Et ils font la lutte, le djihad contre les hypocrites, avec les versets du Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui clarifient yani leur danger et la fausseté de ce sur quoi ils se trouvent, et pour montrer également yani du fait qu'ils montrent aux gens le bien en apparence et qu'ils cachent en eux-mêmes yani le mal et les mauvaises intentions, les mauvais plans contre les musulmans, qu'il y en a des choses qu'il planifie à faire, qu'il planifie de faire contre les musulmans et contre l'islam. Et les ulama luttent et combattent également et font le djihad contre les gens de bid'ah, même s'ils sont musulmans. Ils font le djihad contre eux pour qu'ils quittent la bid'ah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nommé égarement, pour les faire revenir à la sunna qui est une guidance et une lumière. Et ils luttent également et ils font le djihad contre les gens du péché pour les faire sortir yani de leur opposition à Allah subhanahu wa ta'ala par les péchés, pour les faire changer et se diriger vers l'obéissance, pour qu'ils puissent satisfaire leur Seigneur et qu'ils se fassent miséricorde à eux-mêmes en faisant les actes d'obéissance et en abandonnant les péchés. Et également, les ulama combattent par leurs discours qu'ils font, les prêches qu'ils donnent, par leurs exhortations et leurs prêches et leurs explications et leurs clarifications des textes du Coran et de la Sunna. Donc ils luttent contre tous les êtres humains sur la terre dans ce sens-là, les musulmans et les non-musulmans. Donc tout le monde a besoin d'entendre la parole de leur Seigneur et la Sunna de leur prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à cause de cela, ils augmentent jour après jour et mois après mois, durant toute la vie. Personne ne peut se passer de ce repas ou de cette nourriture spirituelle pour les âmes et pour les cœurs. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, n'est-ce pas? Par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Donc les gens de science ont besoin de l'exhortation et ils en profitent lorsqu'ils l'entendent. Et ceux qui sont en dessous d'eux, eux également en ont besoin. Donc il n'y a personne qui peut se passer de la révélation par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde aux djinns et aux êtres humains. À toute époque et à tout endroit. Donc, de même que le dirigeant, on fait également le hajj derrière le dirigeant des musulmans et on obéit et on exécute les ordres qui ramènent à la umma de façon générale du bien, et aux gens qui font le hajj en particulier également, qui ramènent pour eux du bien et de la sécurité. Ensuite donc les deux imams, ils disent وَقَالَ وَالنَّاسُ مُؤْمِنُونَ فِي أَحْكَامِهِمْ وَمَوَارِيثِهِمْ وَلَا يُدْرَى مَا هُمْ عِنْدَ اللَّهِ فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين ومن قال إني مؤمن بالله فهو مصيب. Donc l'explication de en français de cette énoncé des deux imams, c'est que ils ont dit tous les deux, et les gens sont croyants dans leurs règles et dans leurs héritages. Et on ne sait pas ce qu'ils sont pour Allah. Donc celui qui dit qu'il est croyant réellement, alors il est un innovateur. Et celui qui dit qu'il est croyant pour Allah, alors il est parmi les menteurs. Et celui qui dit que je suis croyant en Allah, alors il a dit correct. Il a dit ce qui est correct. Donc maintenant, le cheikh Zayd, hafizahullah, va expliquer maintenant ce passage. Donc le cheikh, il dit, dans tous les cas, la question, le fait de se purifier, de mentionner qu'on a la foi, et le fait de mentionner, de dire Inch'Allah par rapport à notre état vis-à-vis de la foi, il y a à ce sujet-là une divergence entre les savants. Et parmi les paroles à ce sujet-là, c'est que celui qui est questionné, es-tu un croyant? Il dit, je crois en Allah et en ses anges et en ses livres et en ses messagers et au jour dernier. Et s'il dit cela, il a donc donné l'information de ce que Allah a rendu obligatoire pour lui, et il l'a mis en application. Donc il dit pas, il répond pas, par exemple, je suis croyant pour Allah, et il ne se purifie pas non plus de la purification pour la, de laquelle il est interdit. Il témoigne pour lui-même, par exemple, de la foi, et qu'il fait partie des gens de la foi complète. Malgré que dans la création, parmi les créatures, il y en a qui font partie des gens qui ont la foi complète. Mais il ne sait pas quelle sera sa conclusion et sa fin. La science de cela est auprès d'Allah seulement. Et le plus qu'on peut dire, c'est « Je suis croyant en Allah et ses anges et ses livres et ses messagers et la foi en et je crois en le jour dernier et en tout ce qui est obligatoire de croire. » Donc il informe les gens à propos de son état et sa réalité. Et qu'est-ce qu'il sait de cette réalité-là? L'élève du cheikh récite l'autre partie, une autre partie. Il lit ensuite la partie suivante, wal murji'atu mubtadi'atun dullal. C'est-à-dire les murji'a sont des innovateurs égarés. Et le cheikh Zayd il dit à ce sujet-là, ça c'est l'explication de l'aqida de ce groupe perdu, parmi les groupes de bid'a. Et c'est la secte des murji'a. Et leur croyance, comme on l'a expliqué déjà au début du livre, leur aqida fait partie des plus mauvaises croyances. C'est-à-dire que pour eux, la foi, c'est seulement la croyance. Celui qui a cru avec son cœur, même s'il n'a rien appliqué, même s'il n'a rien appliqué des ordres et qu'il ne s'est pas abstenu de rien d'entre les interdictions, pour eux, il est croyant et qu'il a la foi complète. Et ça fait partie des déviations dangereuses. Donc les Jahmiyyah sont les plus pires et les plus mauvaises des sectes de Mubtadi'a dans la question de la foi et dans la question des noms et des attributs d'Allah, et dans de nombreuses questions qui ont rapport avec les questions de la science. À un point tel que certains des salafs les ont déclarés kuffar, d'une mécréance majeure. Et en dessous des murji'a al-jahmiyya, il y a les murji'a al-karamiyya, ceux qui disent que la foi c'est uniquement une parole de la langue. Donc celui qui dit une parole avec sa langue, pour eux c'est la parole de la foi avec la langue, pour eux c'est le croyant avec la foi complète. Et parmi les choses qui sont impliquées par leurs paroles, c'est que les hypocrites sont des croyants. Hein? Ceux qui ont dit, nous témoignons que tu es le messager d'Allah, et ils mentionnent les deux témoignages, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, et qui font la salat, pour montrer le bien et pour cacher le faux ou le mal. Selon les karamiya, ceux-là sont parmi les gens qui ont la foi complète. Ils ont menti dans ça. Parce que les gens de la foi, ce sont ceux qui ont déclaré croire et reconnaître la véracité de ce qui a été révélé et qui ont fait les bonnes œuvres avec leur corps. Ce sont eux les gens de la foi. Donc, ensuite, la suite de ce que les deux imams ont dit. Ensuite, les deux imams ont dit وَالْقَدَرِيَّةُ الْمُبْتَدِعَةُ ضُلَّالُ فَمَنْ أَنْكَرَ مِنْهُمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا لَمْ يَكُنْ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ فَهُوَ كَافِرٌ. C'est-à-dire, les qadariyya, ceux qui nient la prédestination, sont des innovateurs égarés. Alors, celui d'entre eux qui nie que Allah a la connaissance d'une chose qui n'est pas avant qu'elle soit, alors il est kafir, il est mécréant. Et le cheikh Zayd explique maintenant cette parole. Il dit, ça c'est l'explication d'une autre secte parmi les sectes d'égarement. Et ce sont les qadariyya. Et ceux qu'on veut dire par les qadariyya sont ceux qui nient la prédestination. C'est-à-dire ceux qui disent que les créateurs créent eux-mêmes leurs actions. Et donc ils ont fait, ils ont placé donc avec Allah, de nombreux créateurs. Sans qu'il y ait de limite pour eux, parmi les créateurs, parmi les êtres humains. Et c'est pour ça qu'on les a appelés les majus de cette umma. Parce que les majus, eux, pensent qu'il y a deux créateurs, créateurs de la lumière et des ténèbres. Donc ils disent, la lumière crée le bien, et les ténèbres ou la noirceur créent le mal. Et donc, ils ont affirmer qu'il y a plusieurs créateurs, c'est-à-dire les qadariyya ont affirmé qu'il y a plusieurs créateurs. Donc chaque être humain crée lui-même ses actions et Allah subhanahu wa ta'ala ne fait rien de ça, n'a rien à voir dans ça, n'a aucun pouvoir sur ça. Allah ne crée ni le bien ni le mal pour eux, mais ce sont uniquement les créatures qui créent le bien et le mal et qui le font avec leur propre force sans que Allah subhanahu wa ta'ala n'ait aucune décision dans cela, et ils ont menti dans cela et ils ont démenti le Coran et la Sunna et ce sont des égarés. Et les qadariyya sont de deux catégories. Une des catégories qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala ne crée ni le bien ni le mal. Et une autre catégorie qui dit qu'il crée le bien mais qu'il ne crée pas le mal. Et les deux groupes sont dans l'égarement. Et leur parole est fausse. Parce que Allah azza wa jal a affirmé qu'il est le créateur de toutes choses. Allah est le créateur de toutes choses et il est de toutes choses le garant. Et c'est lui qui prédestine toutes choses, les bonnes et les mauvaises, que ce soit quelque chose qui est peu ou beaucoup, les êtres et les actions. Tout ça ne sort pas de la prédestination d'Allah, parce que c'est Allah qui les a prédestinés. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, c'est-à-dire toute chose, nous l'avons créée dans une juste mesure. Et il dit également, Wa kullu shay'in indahu bimiqdar, c'est-à-dire toute chose pour lui est selon une mesure. وخلق كل شيء فقدره تقديرا, c'est-à-dire et Allah subhanahu wa ta'ala a créé toute chose et il l'a prédestiné dans une juste mesure. ونبلوكم بالشر والخير فتنة, yani on vous met à l'épreuve par le bien et par le mal, et ainsi que beaucoup d'autres yani texte qui affirme que Allah Azza wa Jal est celui qui a tout prédestiné, que ce soit des choses bien ou des choses mauvaises, par sa sagesse et par sa justice et par sa miséricorde et par son et par sa grâce. Et yani les serviteurs font eux-mêmes les actes d'adoration et d'obéissance par leur propre choix, et par leur propre décision. Et ils font les péchés par leur propre choix également. Et par leur propre volonté qui suit la volonté d'Allah. Ce n'est pas une volonté absolue qu'ils ont. C'est une volonté qui suit la volonté d'Allah. Puisqu'il dit وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ, c'est-à-dire vous ne pouvez vouloir accepter ce que Allah a voulu. Vous ne pouvez vouloir accepter si Allah a voulu le Seigneur des mondes. Donc, il n'est pas permis de s'objecter, et ni non plus d'imaginer ou de dire comment Allah a voulu la mécréance du mécréant et il l'a châtié pour ça. Et comment il a voulu la foi du croyant. Et il lui a fait miséricorde. On n'a pas le droit de penser à ces choses-là, ni de se dire ces choses-là en soi-même. Ça, c'est pas permis. Le serviteur doit croire en Allah subhanahu wa ta'ala et croire que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a châtié le mécréant, il est le plus juste des juges. Et que son action est une justice et une sagesse pour avoir châtié ce mécréant, parce qu'il ne mérite pas le bien. Et il n'a pas amené, il n'a pas fait les causes du salut ou pour être sauvé. Et la miséricorde d'Allah pour le croyant est de faire rentrer au paradis les croyants et de faire rentrer en enfer les gens de l'enfer. Tout ça, c'est une sagesse d'Allah et une justice et une grâce et une miséricorde. Donc il n'est pas permis à quiconque de s'objecter à quoi que ce soit de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné, ni dans qu'est-ce qui est en grande quantité ou en petite quantité. Que ce soit peu ou beaucoup. Et il y a une autre secte qui oppose celle des Qadariyah qu'on appelle Al-Mujbira ou Al-Jabriya. Et ceux-là, ils sont le contraire, ils sont sur le contraire de ce que ce sont, ils sont sur le contraire de la croyance des négateurs de la prédestination. Eux, ils disent que le serviteur est contraint de faire ce qu'il fait. Et que le serviteur n'a aucune capacité et aucune volonté. Donc, ils ont attribué toutes les actions à Allah. Et ils ont exagéré dans cette affirmation-là. Et ils ont retiré à tout pécheur pervers le blâme. Hein? Et à tout pécheur, ils ont enlevé le blâme. Et ils ont dit que celui qui fait réellement l'action, pour eux, c'est Allah. Et ça, ça fait partie des mensonges à propos d'Allah, Azza wa Jal. Parce que Allah a donné aux serviteurs des moyens, la raison, hein, comme la raison, les cœurs. Hein, il a envoyé les messagers, il a fait descendre les livres, et donner des ordres, il a également donné des interdictions. Toutes ces choses-là que Allah subhanahu wa ta'ala a révélées et a mentionnées à ce sujet-là sont des choses qui sont dans la capacité des hommes qui ont été mis sous la charge de ces responsabilités-là et de ces ordres, de ces interdictions-là. Et donc, la rétribution correspondra à cela. Donc, celui qui amènera fera les causes de la miséricorde sera ou recevra la miséricorde, et celui qui a ramené les causes du châtiment sera châtié et il va périr. Donc, personne n'est contraint de faire le péché, ni contraint à faire l'acte d'obéissance. Hein? Mais plutôt, les hommes sont ordonnés de faire l'obéissance et interdits de faire le péché. Et ça, c'est prouvé par les textes du Coran et de la Sunna, et également la nature saine et propre confirme et accepte cela. Et à personne, parmi le commun des gens, parmi le commun des musulmans, et parmi ceux dont la nature est restée saine, personne d'entre eux n'a dit que Allah force le serviteur à être un pécheur ou un pervers à être pervers. Ou un mécréant à être mécréant. Allah subhanahu wa ta'ala ne force personne à faire ce genre de choses-là. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné et a jugé et a prédestiné dans toutes choses. Il a prédestiné et décrété toutes choses. Et parmi ces choses-là, par exemple, la mécréance et la foi. Et les gens du paradis et les gens de l'enfer, tout ça est prédestiné. Et les gens qui font les péchés, les gens qui font les actes d'obéissance. Tout cela a été écrit par Allah subhanahu wa ta'ala et tout cela se produit selon ce qui a été prédestiné. Donc c'est une prédestination qui a été prédestinée et les serviteurs sont chargés d'obéir et de s'abstenir des désobéissances et de faire les ordres, de respecter les ordres, de s'écarter des interdictions, puis ensuite les conséquences de cela viendront dans la rétribution. Celui qui aura fait le bien, il recevra le bien, et celui qui a fait le mal, il aura le mal pour le mal qu'il a fait. Et donc c'est ce qui conclut le cours numéro 9. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.